Chers amis, on m'entend? Non. Ah, est-ce que là on m'entend? Parfait. Je disais, chers amis, chers frères et sœurs, chers paroissiens, chères paroissiennes, chers collègues pasteurs, je vous propose pour ce dimanche le texte de prédication qui est prévu. C'est dans Marc, le chapitre 3, les versets 31 à 35. La mère et les frères de Jésus arrivent alors. Restant dehors, ils envoyèrent quelqu'un pour l'appeler. Une foule était assise autour de Jésus et on lui dit : Écoute, ta mère, tes frères et tes sœurs sont dehors et ils te cherchent. Jésus répondit : Qui est ma mère et qui sont mes frères ? Il regarda les gens assis autour de lui et dit : Voici ma mère et mes frères, car celui qui fait la volonté de Dieu, celui-ci est pour moi un frère, une sœur et une mère. Nous avons la chance aujourd'hui de vivre un culte qui est teinté aux couleurs de la rentrée. La rentrée catéchétique, la rentrée ecclésiale, pastorale, mais aussi la rentrée scolaire, la rentrée académique. Et chaque rentrée, chers frères et sœurs, amène son lot de nouveautés, en particulier de nouvelles personnes. Au sujet du caté, nous avons accueilli tout à l'heure les nouveaux avec la remise des Bibles. Au sujet des pasteurs, nous venons aussi d'accueillir un nouveau vicaire dans le secteur. Et pour celles et ceux qui sont encore au banc de l'école, vous avez sans doute remarqué dans vos classes des nouveaux visages, ou peut-être êtes-vous vous-même ce nouveau visage qui vient d'arriver. La rentrée, chers frères et sœurs, a cette fâcheuse tendance à recomposer nos groupes. On était tranquille, on avait pris nos marques, on s'était fait des amis, on était devenu une famille, et c'est là que la rentrée arrive, que la rentrée débarque pour tout chambouler. Dans les prochaines séances caté, les anciens devront faire le deuil de ceux qui sont partis après leur confirmation. Ils verront des nouveaux visages et devront apprendre à les connaître, à les apprivoiser et à tisser des liens. Les nouveaux seront peut-être un peu timides au début, ils apprendront aussi à connaître chacun et à tisser des liens. Les paroissiens et collègues pasteurs feront aussi le deuil de ceux qui sont partis pour apprendre à connaître les nouveaux. Et cela vaut aussi pour l'école. Et il y a toujours ce danger de plaquer les charismes des anciens comme attente sur les nouveaux. Et c'est aussi là une occasion d'apprendre à connaître les charismes de chacun pour ne pas justement avoir des attentes en plaquant les charismes des anciens sur les nouveaux. L'objectif, frères et sœurs, est qu'ensemble, dans cette nouvelle configuration, dans cette recomposition, nous puissions réussir à faire famille. Oui, frères et sœurs, la rentrée est à chaque fois un défi parce qu'elle recompose nos groupes, nos familles. Et c'est le thème que je vous propose ce dimanche. La famille recomposée, le défi de chaque rentrée. Malgré nos différences et le fait d'être étrangers les uns pour les autres, nous sommes appelés à être frères et sœurs d'une même famille en constante recomposition. Et particulièrement nous, ici en Église. Les textes bibliques nous proposent une réflexion sur la façon dont nous pouvons relever ce défi qui est loin d'être facile. Ils nous proposent aussi de questionner les liens familiaux biologiques et par alliance. Dans le récit de l'Évangile que nous avons lu, on apprend que Jésus est recherché par sa famille biologique. Pendant qu'il est assis au milieu d'une foule qui certainement l'écoutait, et c'est là que le Christ aura cette réponse choquante, il faut l'avouer. Il dit « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Il regarde les gens autour de lui et il dit « Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu est un frère, une sœur et une mère pour moi. » Par ces mots qui peuvent paraître très durs à l'égard des siens, Jésus veut remuer nos certitudes sur la filiation. Il questionne cela et ouvre le champ pour une recomposition possible. Jésus de Nazareth, vous le savez certainement, est sans doute la personne la mieux placée pour interroger la filiation. Toute sa vie a été une affaire de famille recomposée. Déjà, tout au début, à sa naissance, son père, ce n'est pas vraiment son père. Mais Joseph a dû accepter un enfant qui n'était pas le sien et il a dû apprendre à l'aimer comme son enfant. Ensuite, durant sa vie et son ministère, il y a ce récit où il parle des personnes qui font la volonté de Dieu comme étant de sa famille. Puis, à la fin de sa vie, à la croix, il dit à sa mère Marie et aux disciples qu'il aimait « Voici ton fils, voici ta mère ». Le fait d'être lui-même issu d'une famille recomposée et que le sujet l'accompagne durant toute sa vie jusqu'à la fin, a peut-être permis à Jésus d'avoir davantage conscience que les liens familiaux se travaillent. Les choses ne sont pas données. Les personnes qui ont connu une situation familiale semblable à Jésus savent sans doute mieux que les autres que les liens de famille doivent se nourrir constamment. Il faut s'apprivoiser petit à petit et entretenir le lien tissé. Pour Jésus, le plus important, ce n'est pas d'abord le lien de sang, mais le lien du cœur. Le Christ veut nous enseigner que même la famille de sang a vocation à devenir aussi une famille de cœur. Il nous appelle non seulement à être famille, mais aussi à faire famille. Qui est de ma famille ? Ce n'est pas seulement celui qui est de mon sang, mais celui qui fait la volonté de Dieu. Jésus nous invite, chers frères et sœurs, à renoncer à une filiation passive pour entrer dans une filiation active. Il est vrai que ce récit biblique n'est pas toujours facile à entendre. Il heurte la sensibilité. Et certains, d'ailleurs, l'utilisent à tort pour justifier le rejet injuste des membres de leur famille. Le message de l'Évangile n'encourage pas un abandon familial injuste. Les lectures rapides qui sont faites de ce texte se focalisent souvent sur l'exclusion et elles oublient ce que le texte pointe vraiment, c'est-à-dire l'inclusion des nouvelles personnes dans la famille. À aucun moment Jésus ne dit que sa mère, ses frères et ses sœurs biologiques ne sont plus de sa famille. Quand on lit le texte attentivement, on voit que Jésus ne ferme pas une porte, il en ouvre une nouvelle. Il n'exclut pas, il inclut. C'est justement, frères et sœurs, cette nouvelle porte ouverte qui nous aide, toutes et tous, à trouver une deuxième famille en paroisse, au caté, au travail ou à l'école. C'est ce qui redonne des parents, des frères et sœurs, à un enfant adopté, à un orphelin. C'est ce qui permet à une personne veuve de se reconstruire en compagnie de ses enfants, de ses amis ou éventuellement d'un nouveau compagnon. Les familles recomposées, frères et sœurs, ne sont pas toujours le fruit des situations telles que l'adoption ou le veuvage. Elles viennent parfois d'une situation conflictuelle, comme le divorce ou la contestation de filiation. Les paroles de Jésus nous aident aussi à enlever le poids de la culpabilité face à la nécessité de couper les liens avec certaines personnes de notre famille biologique ou de notre famille par alliance. Combien de personnes vivent des situations de violence ou de viol au sein de leur propre famille? Et elles n'osent pas partir parce que, dit-on, la famille est sacrée. Quand on a été violé au sein de sa propre famille, quand on a subi des abus dans sa fratrie ou des violences de la part de son compagnon, de sa compagne, on a le droit et même le devoir de questionner l'avenir de cette relation. Tout à l'heure, je vous ai mis en garde contre une lecture rapide de l'Évangile pour ne pas y voir un Jésus qui essayait de couper les ponts avec sa famille biologique. Mais je me suis peut-être trompé. Il se peut qu'à un moment de sa vie, Jésus ait bien voulu couper avec les siens. Vous le savez certainement, une des meilleures façons pour comprendre un récit biblique difficile, c'est de lire ce qui se passe avant et même ce qui se passe après le récit. Qu'est-ce qui se passe juste avant que Jésus prononce ces paroles difficiles à entendre ? Au verset 20, le Christ est dans une maison et il y a une grande foule autour de lui, un petit peu comme la situation de notre texte biblique toujours. Le verset 21 dit « Quand les membres de sa famille apprirent cela, ils vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient « Il a perdu la tête ». En d'autres termes, pour sa famille, Jésus est devenu fou et il faut le mettre en détention. En fait, le verbe traduit par « se saisir de lui » est exactement le même verbe qui est utilisé pour décrire l'arrestation militaire de Jésus, quand Jésus va être arrêté pour être jugé. Les spécialistes de l'évangile de Marc pensent que dans notre texte du jour, sa mère, ses frères et ses sœurs reviennent le chercher parce qu'ils veulent à nouveau l'arrêter en estimant qu'il est devenu fou. D'où la réaction de Jésus. Mettons-nous un instant à sa place. Tu portes dans ton cœur une mission pour laquelle tu es prêt à te sacrifier. Une vocation au service du prochain. Un engagement qui pourrait te coûter la vie. C'est la mission d'annoncer un message d'amour dans une société où la haine de l'autre ne cesse de monter en puissance. La mission de soutenir les pauvres dans une société où les ultra-riches et la puissance coloniale appauvrissent le peuple. La mission d'aider les malades dans une société où ils sont abandonnés dans les rues à leur triste sort. La mission de réinsérer les personnes exclues dans une société où la moindre différence, le moindre défaut est une occasion pour être chassé de la communauté. Dans cette passion de vouloir changer les choses, tous les responsables religieux sont contre toi, les responsables politiques se méfient de toi, une partie des gens que tu rencontres ne veut pas de toi, et en ce moment où tu as le plus besoin du soutien de ta famille, eh bien, elle te lâche. Elle n'est pas seulement indifférente à ton égard, mais elle te prend pour un fou. Et pire, Elle cherche à t'arrêter à deux reprises. Frères et sœurs, c'est une blessure difficile. J'imagine un Jésus brisé et blessé au dedans. Un Jésus à la recherche d'un nouveau repère, d'une nouvelle famille qui puisse le soutenir dans ce moment pénible. La famille est certes sacrée, mais quand elle devient un bourreau qui nous détruit, l'Évangile nous apprend à prendre nos distances. Nous étions toutes et tous sous le choc de découvrir l'affaire Gisèle Pélicaud, une femme victime de son propre mari et qui a subi des horreurs. Il n'y a, frères et sœurs, aucune culpabilité à avoir lorsqu'on met un terme à cette souffrance parce que la famille n'est pas censée être un lieu de tourment. Le lien de sang ou d'alliance ne justifie pas un crime ou des abus. Le Christ dit « Si une famille est divisée et que ses membres luttent les uns contre les autres, cette famille ne subsistera pas. » Alors, que retenir ? Que retenir de tout cela en conclusion ? Les paroles de Jésus évoquent essentiellement une ouverture à la possibilité d'avoir une nouvelle famille. C'est aussi un appel à faire une famille de cœur et pas seulement à être une famille de sang. Parce que la relation familiale se construit régulièrement. En ce jour où la nouvelle année nous lance le défi d'une recomposition de nos groupes, ma prière est que nous arrivions ensemble à créer une dynamique. J'espère que chaque caté trouvera sa place et se sentira bien dans ce nouveau groupe. J'espère que chaque élève trouvera une classe qui l'accueille. J'espère, pour moi aussi, trouver ma place parmi vous, trouver en vous une famille. Amen. Je vous propose de marquer un temps de silence avant le prochain chant, Chaîne d'amour.